foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Jean-François Mignard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu dans notre radio pour nous parler en fait des états généraux des migrations. Vous êtes président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme après avoir été au niveau national au secrétariat. Et maintenant, vous avez des responsabilités aussi au niveau de Toulouse et de la région.
C'est ça.
Alors, j'aime bien demander à mes invités, à ceux qui dialoguent au niveau de leurs convictions, au niveau de leur foi, d'où ils viennent, quelle était leur éducation, en quoi ils ont été marqués par leur famille.
Je suis né à quelques mètres du studio d'ici, et je suis le produit d'une culture traditionnelle catholique du sud de la France, c'est-à-dire que j'ai suivi, par convention, la trajectoire jusqu'à la communion, puisque c'était à l'époque, c'était juste...
Solennel, on disait.
Voilà, solennel, jusque-là, qu'on allait. Après, bon, voilà, c'était... Après, on faisait un petit peu ce qu'on voulait. Et ça a certainement marqué mon histoire, mes valeurs. Hein. Je pense aussi que j'ai été, d'un autre côté, le produit d'une certaine France, des Trente Glorieuses, qui était celle des valeurs portées par le pays à l'époque, hein, le Conseil National de la Résistance. J'ai beaucoup vécu dans un collectif qui était un collectif porté par ces valeurs-là, qui étaient des valeurs de solidarité, des valeurs de syndicalisme. Hein, j'ai vécu des centres de vacances, des centres loisirs, tout ça, qui ont certainement marqué, m'ont marqué quant à mes valeurs et mes trajectoires. Voilà, je viens de cette histoire-là.
Plus peut-être l'égalité et la fraternité. Non, plus l'égalité que la fraternité. Solidarité au sens social.
Je suis plus du côté de la solidarité que de la charité, au sens où j'aime bien l'égalité et je considère que ce qui est important, c'est le fait d'éviter la dissymétrie entre celui qui donne et celui qui reçoit. Mais que pour moi, la fraternité, c'est effectivement le fait d'être à égalité et de se sentir solidaire de l'autre. C'est ces valeurs-là, effectivement, dans lesquelles j'ai vécu et qui font que, bon, je les porte aujourd'hui, je me les suis, comme on dit, appropriées.
Et vous avez choisi un métier?
Alors,
un peu en lien avec...
Oui, bien sûr, je suis dans une vie antérieure, j'étais instituteur, hein, on dirait professeur des écoles maintenant, mais on était instituteur à l'époque, on était les gens qui instituaient d'une certaine façon.
Les hussards noirs.
Voilà, alors bon, après. On va pas faire référence à Peggy, mais c'est vrai que j'ai eu une trajectoire qui est la trajectoire classique, j'ai fait le séminaire laïque, comme on disait à l'époque, l'école normale d'instituteur. On avait des fois tendance à bouffer du curé matin, midi et soir, mais où on était porté par un certain nombre de valeurs qui étaient les valeurs de la République. Voilà, et assez naturellement, au regard de ce que j'ai évoqué de mon propre histoire, je me suis assez vite retrouvé dans des envies d'être du côté de l'éducation. Donc j'ai fait l'école normale instituteur. Et puis, assez rapidement, je me suis engagé dans ce qu'on appelle le mouvement d'éducation populaire. Je suis devenu permanent associatif d'un grand mouvement laïque, là aussi, qui s'appelle les Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, les CMEA. Et j'ai donc été, pendant plusieurs années, un cadre associatif, comme on dit. Ensuite, je suis devenu formateur de travailleurs sociaux. Voilà, insensiblement, puisque j'avais une formation d'instituteur spécialisé. J'ai donc formé des éducateurs spécialisés, c'est un service social, des animateurs, et une partie de ma trajectoire professionnelle, je l'ai aussi passée à travailler dans ce qu'on appelle les quartiers sensibles. celui du Mirail à Toulouse, et j'étais responsable d'une équipe d'éducateurs, ce qu'on appelle les éducateurs de rue en prévention spécialisée.
En milieu ouvert.
Alors là, en plus, c'est l'éducateur de rue, c'est celui qui, d'une certaine manière, est au contact, en direct, en permanence, on va dire, avec les gens auprès de qui il travaille. J'ai donc beaucoup travaillé sur cette question-là. Et jusqu'à ma retraite, c'est-à-dire j'ai passé une grosse trentaine d'années à former des travailleurs sociaux et à faire pas que de la formation, mais aussi de l'expérimentation sur le terrain et de la recherche. Voilà.
Alors, vous parlez à un moment où, à l'Institut de formation, l'IFRAS, il n'y a pas longtemps, un colloque sur le droit des enfants.
Oui.
Avec des témoignages des assistantes sociales, des juges, des avocats, pour savoir justement comment défendre ces droits des enfants.
C'est le collectif Enfance 31 qui est un collectif qui regroupe syndicats, associations, dont la Ligue des droits de l'homme, mais pas que, bien, il est beaucoup plus large que ça. Et qui, pour la deuxième année, cette année de manière un peu plus approfondie que la première année, a travaillé sur cette question, qui est la question aujourd'hui des droits réels et pas virtuels ou supposés des enfants, et aujourd'hui des conditions de vie de tous les enfants. Parce que c'est une des préoccupations qu'on peut avoir, nous ne traitons pas bien en France, mais pas que, mais aussi en France, nos enfants et notre jeunesse. Et c'est particulièrement inquiétant. Une société qui ne traite pas bien sa jeunesse et son enfance n'est pas une société qui a forcément beaucoup d'avenir. Voilà. Et aujourd'hui, à Toulouse, il y avait ce travail-là de manière alertée.
Vous voulez dire que c'était au mois de novembre, fin novembre.
Voilà.
Et en même temps, quand vous dites « sa jeunesse », je crois qu'au niveau des états généraux des migrations, où vous êtes un acteur particulièrement important, on va dire qu'il y a aussi tous les enfants qui viennent isolés, des migrants isolés. Alors, avec tout le débat, est-ce qu'ils ont des papiers, est-ce qu'ils n'ont pas de papiers, est-ce qu'ils sont majeurs, 16 ans ou 18 ans?
Techniquement, on appelle ça des mineurs non accompagnés, des MNA.
C'est ça.
Voilà. Qui représente aujourd'hui une réalité qui est une réalité douloureuse dans notre pays.
Pour eux? Et pour les éducateurs et pour la police et pour tous ceux qui...
Oui, douloureuse au sens de... C'est quand même quelque chose qui est l'indicateur d'un dysfonctionnement flagrant de notre société. Nous partons du principe. Ce que je dis « nous », c'est l'ensemble des associations qui sont mobilisées auprès de ces enfants-là, et plus largement auprès de ce qu'on appelle les migrants, dans le cadre des états généraux des migrations. Mais il y a la CIMAD, il y a le GISTI, il y a le Secours Populaire,
le Secours Catholique. 25 associations.
Alors il y a 25 associations ici localement, mais les états généraux des migrations, en 2017, quand ça s'est créé, c'était plus de 470 associations, parce qu'il y a des grosses associations qui sont comme Pignon sur rue, qui sont connus, j'ai envie de dire. La CIMAD, tout le monde connaît un peu, qui s'intéresse, le GISTI aussi,
oui.
Bien sûr. France Terre d'Asile, des choses comme ça. Mais dans notre pays, je pense que c'est important de le souligner, fourmille des initiatives qui sont des initiatives des fois très locales, de gens qui se mobilisent parce que ces enfants, alors puisqu'on parle des enfants, mais plus largement les réfugiés, mais les enfants, ils souhaitent que les enfants, qu'on laisse grandir ici les enfants, parce qu'un enfant est un enfant. Il n'y a pas d'enfant étranger, il n'y a pas d'enfant sans papier. Le droit à vivre son enfance, le droit à l'éducation est un droit fondamental. Alors bon, ça c'est vrai que c'est la Ligue des droits de l'homme qui parle, mais pas qu'elle, qui fait qu'on n'a pas le droit... On n'a pas le droit de maltraiter des enfants, de les traiter différemment des autres, au prétexte qu'ils ne sont pas nés au bon endroit, qu'ils ne sont pas de familles qui sont des familles suffisamment fortes pour les accompagner. Et ça fait partie de notre, je vais dire un gros mot, de notre devoir de citoyenne et de citoyen, de traiter cette question-là. Et donc, je pense que c'est important de dire que il y a énormément d'initiatives qui se développent dans le pays. Je dis ça parce que on entend quand même de manière très très récurrente un discours qui est un discours un petit peu dominant, qui est celui du de l'étranger qui est l'étranger dangereux, de ces enfants qui seraient des enfants qui seraient différents des autres, qui seraient un problème. Le problème, ce ne sont pas les migrants, le problème, ce ne sont pas les mineurs non accompagnés, les enfants qui sont les enfants que nous avons à accueillir. Notre problème, ce n'est pas les enfants, notre problème, c'est l'accueil. C'est notre incapacité à remplir, y compris du droit international. Je rappelle que la France est signataire et n'a pas ratifié, mais a signé toute une série de textes internationaux qui stipulent que nous nous engageons à accueillir ces enfants-là comme les nôtres.
Oui, mais on va dire que le regroupement familial peut être le cheval de Troie pour des migrations non contrôlées.
La question du contrôle des migrations est une question aujourd'hui qui est une question ouverte. Nous n'avons pas de politique à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne d'accueil et de politique d'accueil des migrations. Nous avons des réflexes qui sont des réflexes défensifs. Ce n'est pas ce que j'appelle une politique. Une politique, ça veut dire qu'on prend l'ensemble des éléments qui sont sur la table et on essaye de trouver des équilibres dans les décisions qui sont les décisions à prendre. Nous sommes aujourd'hui gouvernés, et c'est un discours qui est un discours de trouille, quand ce n'est pas de haine que nous entendons. Et ça, ça ne fait pas une politique qui est une politique migratoire. La politique, le discours aujourd'hui qui est de dire oui, par exemple, voilà, les gens utilisent le regroupement familial pour contourner des textes qui sont des textes qui n'iraient pas dans leur sens, est un discours qui ne tient pas la route. Ne serait-ce que parce que vouloir contrôler sur cette base-là aujourd'hui des choses telles qu'elles sont nous amène à être complices du fait que tous les jours, des familles entières se noient en Méditerranée. Tous les jours, des gens meurent de froid dans l'école qui est l'école des montagnes qui entoure notre continent européen. Tous les jours, un enfer est vécu dans les camps dits de réfugiés qu'on a eu jusqu'à présent tendance à renvoyer à l'extérieur, les fameux hotspots. On sous-traite ce problème-là à d'autres, à la Syrie, à la Turquie. Et ce qui est en train de se passer, cette espèce de politique l'autruche, de refuser de voir la réalité qui est que ces gens-là existent, que ce sont nos frères et nos sœurs en humanité, on va dire comme ça, et nous amène aujourd'hui à une impasse. Donc, posons sur la table la réalité des questions qui sont des questions migratoires et essayons là-dessus d'éviter de nous déshonorer comme nous le faisons pour pouvoir avancer.
On connaît d'ailleurs, place du Capitole, les sacs de silence qui sont un moyen de réflexion.
Bien sûr.
Nous n'avons pas de solution. S'il y avait des solutions, elles seraient
bien
trouvées.
Bien sûr, bien sûr.
Et en même temps, peut-être de s'opposer au CRA. Alors, on va utiliser des sigles, mais le centre de rétention administrative, comme celui de Cornebarieux. Mais vous avez apporté un chant d'André Mainvieille que nous allons entendre justement.
Alors c'est André Mainvieille qui le chante, mais c'est Jacques Prévert qui l'a écrit.
Étrange étranger.
Kabyle de la Chapelle et du quai de Javel, homme des pays loin, cobaye des colonies du petit musicien. Soleils adolescents de la ville de Paris, et bouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues. Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée pour l'Arc du Marais et du Temple des Rosiers. Cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares et du Cap Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre. pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où pouvez-vous vous baigner. Esclaves noirs de Fréjus, qui évoquiez chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les oiseaux de vos villages, tous vos échos de vos forêts. Et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la fête de la Bastille le 14 juillet. Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit
et Jean-François Mignard. Pour ceux qui prennent l'antenne en cours de route, vous êtes donc président honoraire des droits de l'homme après avoir été secrétariat au niveau national. Et nous parlons aujourd'hui des états généraux des migrations. Mais encore un mot sur le chant que nous venons d'entendre.
Oui, peut-être. Mais pourquoi, enfin, je peux expliquer pourquoi je l'ai choisi, parce que c'est quelque chose qui me touche parce qu'effectivement il s'agit bien de faire la question de l'accueil des étrangers, du vivre avec les gens qui ne sont pas comme nous, renvoie notre capacité à travailler avec, à vivre avec l'étrangeté de l'autre, et vient interroger au-delà de j'ai envie de dire de dimension purement opérationnelle ou de stratégie, une question qui est une question fondamentale, la question de l'accueil des étrangers, la façon dont on est capable ou on sera capable de traiter cette question-là, et certainement un point de rupture, un point d'équilibre sur notre capacité à faire société de façon un petit peu solidaire. Et dernier point. C'est un texte qui est écrit par Jacques Prévert. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Ça indique bien que cette question-là est une question qui vient tarauder nos sociétés depuis des années. Hein. Ce texte-là n'est pas d'hier ni d'avant-hier.
Quelle que soit l'appartenance religieuse, confessionnelle.
Bien sûr, on connaît, ou si on ne connaît pas, on peut se faire rapidement une idée de la pensée de Jacques Prévert, qui n'était pas forcément un croyant forcené, mais qui me dit que bien là aussi, que ça transcende d'une certaine façon les appartenances, les fois, les religions, les églises, hein, tous les jours, j'ai envie de dire, main dans la main, de façon extrêmement œcuménique, entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, on est engagé sur cette question-là. Je pense qu'elle transcende les appartenances communautaires.
À chercher des solutions pour des problèmes qui dépassent et l'individu et la nation.
Et à sortir et à délibérément choisir de ne pas se faire prendre par le discours de la peur, qui, en règle générale, engendre assez souvent le discours qui est le discours de la haine. Soyons sereins par rapport à cette question-là. Rappelons que nous sommes un pays qui a accueilli pendant des années des quantités importantes de gens qui étaient des gens venus d'autres pays. Dans la région ici, qui est la région toulousaine, rappelons-nous que nous avons, dans les années 30, à la fin des années 30, accueilli des centaines de milliers d'Espagnols, de l'autre côté des Pyrénées, qui étaient des gens qui sont venus chez nous.
Avant, il y a eu les Italiens et les Polonais, ensuite les Asiatiques.
Alors, on n'arrêterait pas. Hein, on n'arrêterait pas de rappeler que la France est un vieux pays d'immigration, chose que on est en train de nous éradiquer de la tête d'une certaine manière. Quand on se retrouve dans un collectif, il suffit d'aller interroger les uns et les autres sur les trajectoires familiales, sur les origines, comme on dit, pour mesurer effectivement que nous sommes fabriqués de ça, individuellement et collectivement.
Oui, mais administrativement, on se rend compte qu'il y a quand même toute une série de questions, de problèmes. On segmente, par exemple, les demandeurs d'asile, ensuite ceux qui ont papiers, permis de séjour temporaire ou pas, les ordres à quitter le territoire. Dernièrement, nous avions évoqué l'enquête justement de l'OFI, Office français des migrations, et de insertion et immigration.
De l'immigration et de l'intégration. C'est un établissement public qui a vocation à traiter la question qui est la question des gens qui viennent en France et de leur statut, puisque au regard de la trajectoire qu'ont connue les personnes qui viennent de l'étranger en France, ils peuvent prétendre un certain nombre de droits qui sont liés à des textes qui sont des textes internationaux, et notamment à la question qui est la question des réfugiés. Mais peut-être un petit mot là-dessus pour dire combien l'absurdité administrative et l'OFI... Comme le service des étrangers à la préfecture de Toulouse, qui a fonctionné pendant des années de manière assez kafkaïenne sur cette question-là, et chez qui on a été obligé d'aller un peu créer un observatoire pour faire évoluer les choses, fonctionne sur des dimensions administratives qui sont aujourd'hui complètement dépassées. Est-ce que les réfugiés qui seraient réfugiés économiques, qui seraient très différents des réfugiés qui sont des réfugiés politiques, qui seraient des réfugiés climatiques, ces espèces de grandes catégories administratives qui fondent les politiques publiques sont dépassées quand on connaît la réalité humaine des gens, qu'on les côtoie. Aujourd'hui, les gens qui viennent en France sont des gens qui sont autant confrontés à des questions politiques qu'à des questions économiques, qu'à des questions climatiques. Autrement dit, il y a certainement à revenir, à réfléchir sur la manière dont on pense à cette question-là.
Et vous demandez en fait à ce que les lois soient appliquées. Mais les lois sont contradictoires.
Nous demandons d'abord à ce que les principes internationaux soient appliqués, à ce que les textes internationaux soient appliqués. La deuxième chose, c'est que nous demandons à ce qu'ils soient mis sur la table et réfléchis, pas de façon restrictive et défensive, mais qu'ils prennent en compte la réalité de manière à ce qu'on n'aille pas à la catastrophe.
Et que les demandeurs d'asile, par exemple, puissent accéder à une plateforme téléphonique de l'Office français d'immigration.
Bien sûr.
Que ça ne soit pas trop compliqué, soit écrit en français.
Oui. Bien sûr, ça passe par des choses très concrètes, qui sont le fait que, effectivement, au nom de procédures administratives, on n'empêche pas les gens d'accéder à leurs droits.
Alors, en même temps, vous référez à des textes de loi. Et vous avez d'autres ouvrages peut-être pour orienter nos auditeurs vers une réflexion qui ne soit pas trop juridique.
Je pense que soyons modernes, j'ai envie de le dire. Aujourd'hui, c'est peut-être pas des bouquins, mais c'est peut-être d'aller regarder sur les sites des grandes associations qui gèrent ces questions-là et qui proposent un éclairage sur la réalité aujourd'hui des migrations. Je pense au site de la CIMAD, je pense au site du
GISTI. Oui.
Voilà, bien sûr, je pense au site de la Ligue des droits de l'homme, je pense à au site de Réseau Éducation sans frontières, où si on veut surfer sur le net, comme on dit aujourd'hui, on peut se faire aujourd'hui une idée assez précise de la réalité des migrations et des conditions de l'accueil qui éclairent différemment les choses de la façon dont on en entend parler dans les médias. J'ai envie de dire.
Pour une mobilisation citoyenne.
Bien sûr, ne rien lâcher et fédérer toutes les énergies qui sont encore une fois extrêmement nombreuses et multiformes dans notre pays, en Europe, pour l'accueil humain.
Très bien, bah écoutez, merci Monsieur Mignard. Peut-être nous aurons l'occasion de vous écouter de nouveau sur cette antenne.
Volontiers.
Et de coordonner toutes les actions qui sont faites en vue de que les migrations ne soient pas seulement un problème, mais soit aussi une espérance.
Espérons-le.